Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que nous vivons dans une société où la binarité est la norme. Qu'est-ce que j'entends par binarité? C'est on raisonne en deux clans, le bien, le mal, les pour, les contre, les anti, les pros. Soit c'est noir, soit c'est blanc. On s'inscrit systématiquement dans une dualité. Et nous, en tant que chrétiens, on ne parle pas de dualité entre Dieu et le diable. Jésus a triomphé. Donc, la notion de dualité n'existe pas. Ils sont pas équivalents. Mais nous, on est dans une société où on est toujours dans cette opposition. On a besoin de construire nos schémas dans cette opposition-là. On est même dans ce que moi j'appelle la doxa d'aujourd'hui, c'est le conflit. Le dogme d'aujourd'hui, c'est le conflit. On a besoin de fonctionner par le biais du conflit. C'est Gérard qui disait tout à l'heure qu'on est même dans une société où c'est la norme au final, c'est la pensée humaine. La doxa, c'est l'homme, l'homme roi, l'homme surpuissant, l'homme qui domine tout. Et il y a pas longtemps, je regardais un article, c'était au Qatar, et ils ont développé des drones pour pouvoir faire pleuvoir. La puissance grande de l'homme. On se pose jamais des répercussions derrière. On est toujours, voilà, dans cette dualité. Et aussi, on pourra observer dans notre société, toujours dans cette logique de dualité, soit on accueille ou on exclut. Je porte pas de jugement, mais si je reprends la dernière, l'actualité actuelle, avec le Covid, on accueille, on exclut, on arrivera devant certains magasins, on accueillera certaines personnes et on exclura d'autres. C'est des schémas de pensée très simples et ça permet de comprendre les choses parfois simplement. Mais je me pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile entre accueillir et exclure? En excluant, on est déchargé, on est libéré. Je n'ai aucun engagement. En accueillant une personne ou un sans-abri, je serai obligé de lui donner le gîte, le couvert, échanger avec lui, créer une relation avec lui. Ça me prendra du temps, ça me prendra de l'énergie. Donc, quelque part, ça va me coûter. Alors, on va être dans une société où ça sera préférable d'exclure. C'est plus simple. Déjà, en l'excluant, ce qui se passera pour lui, je n'en serai pas responsable. Parce que j'essaie de le convaincre. Et ce sera plus simple pour moi, quelque part. Donc, comme je disais, en accueillant, on doit accompagner la personne, on doit construire une relation. On doit s'intéresser donc à l'autre, à son parcours de vie. Et de relation en relation, d'échange en échange, on finit par l'aimer. Et avant de continuer, je prends un peu là, toujours dans l'état actuel, on a l'impression que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est nouveau. Qu'il y a toujours eu, les conflits sont maintenant, sont de plus en plus acerbés aujourd'hui. Mais si on s'intéresse à l'histoire, ou même au récit biblique, on se rendra compte que des conflits, il en existait déjà. Les distanciations entre les gens existaient déjà. Les iniquités existaient déjà. Il n'y a rien, comme dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et que on est toujours dans cette conflictualité. À certains moments de l'histoire, un peu moins, à d'autres, un peu plus. Mais on est toujours là. Donc c'est pas nouveau. Notre société s'est malheureusement construite comme ça. Et on peut observer aussi une forme de décadence. Donc, je vais me permettre d'affirmer quelque chose. Et je me permette aussi, parce que c'est moi qui fais le message, de vous joindre à ce que je vais dire. C'est très risqué quand même, hein. Mais je vais affirmer qu'il y a un manque d'amour dans notre société. Un manque d'amour. Ou que nous avons besoin d'apprendre à aimer. Comme dit la chanson, apprendre à aimer, donner sans recevoir, rien que pour le geste, sans vouloir le reste. Florent Pagny, pour ceux qui connaissent pas. Mais Je me suis posé une question. Mais de quel amour parle-t-on? Il faut apprendre à aimer. Faut aimer. Mais de quel amour parle-t-on? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. De quel amour parle-t-on? Dans plusieurs langues, dans certaines langues, il y a plusieurs mots pour parler d'amour. En français, on a un seul mot pour parler d'amour. On dira « j'aime mon frère », « j'aime ma sœur », « j'aime ma femme ou mon mari », « j'aime ce petit plat délicieux », « j'aime cette glace », « j'aime mon Dieu ». On a un seul mot pour parler d'amour. Évidemment, on est tous d'accord que ici, dans le contexte, le « j'aime pas mon fils comme j'aime ma femme », je les aime tous les deux, mais d'un amour différent. Ou j'aime mon Dieu pas comme j'aime mon ami. Je sais que mon Dieu ne me décevra jamais, mais mon ami peut me décevoir. Dans certaines cultures, il existe des mots bien spécifiques pour parler d'amour afin de mieux percevoir la profondeur de la relation. Moi, je suis originaire du Gabon, et pour dire « j'aime Dieu », on dit « Menanzalawe ». Je vais vous le traduire « j'ai faim de toi ». Et je trouve ça intéressant. On dit « j'ai faim de toi » pour dire « j'aime Dieu ». Et pour dire « j'aime », c'est un autre mot. Les Grecs vont plus loin. On dénombre à peu près 6 mots pour dire « j'aime », pour exprimer l'amour. Il y a « eros », « philia » et « agapé ». Pour ne citer que cela. Et on le voyait tout à l'heure, pour parler juste d'amour de son fils, on parlait de philia et technos, je suis pas un expert du grec, des philandros pour l'amour de son vers sa femme ou son mari, et l'amour divin agapé. D'où la question de quel amour parle-t-on? Est-ce que je parle de l'amour passionnel? Est-ce que je parle de l'amour d'amitié, que je construis dans une amitié? Est-ce que je parle de l'amour agapé? De quel amour parle-t-on? On va les prendre un par un. L'éros, l'amour charnel et passionnel. On dit aussi c'est l'amour du beau, ou en d'autres termes tombé amoureux, celui qui est né de la pulsion, de notre émotion, de ce que l'on ressent. Et dans la mythologie grecque, Eros, c'est un jeune dieu avec petit d, qui découvre Dieu dans l'autre, dans la relation qu'il va nouer avec l'autre. Mais Eros, dans la mythologie grecque, c'est le fils de ce qu'on appelle du Peña. Peña, c'est le manque. Donc on dira que Eros, certes, va nouer une relation avec quelqu'un, mais il sera toujours en manque de quelque chose. Alors il va nouer une relation avec quelqu'un d'autre. Il va construire quelque chose, il y aura toujours ce manque. Alors il ira, ainsi de suite. On dit qu'Eros est toujours dans le manque. C'est la soif qui cherche son eau vive. C'est la soif qui cherche son eau vive qui voudrait être remplie, comblée. Un Eros bien orienté et magnifique s'il reste fidèle. Mais lui-même n'est pas source, à la différence de l'agapé. Comme je disais, dans nos amours, il y a beaucoup de soif. Mais peu de fontaines qui débordent. L'agapé, lui, ne cherche plus l'amour. Il est capable de le donner pour rien. Gratuitement. C'est la source de vie. Eros, cet amour passionné. Donc, est-ce qu'on enquête d'Eros? Petit exemple, les jeunes couples. Moi, ça fait à peine 5 ans de mariage. Donc, je peux me considérer comme étant un jeune couple. Les premières années, on peut dire, on est pleinement dans l'Eros. On voit encore cette mèche rebelle qui nous a fait tomber dans son charme. On est dans une relation qui est très passionnée. Tout est beau, tout est rose. Après, on commence à vivre ensemble. Tout est beau, tout est gris. Après, on apprend à découvrir la personne et on se rend compte que l'Eros, c'est plus pareil, c'est différent. Il renfle. Elle renfle. C'est vrai qu'au début, on est baigné dans cet Eros-là, mais on se rend compte que cet Eros, soit il évolue ou n'évolue pas, ou on se rend compte qu'il n'est plus le même qu'aux premières heures. On crée une autre relation. On crée une autre relation et en vivant avec la personne, on communique avec elle. On va créer ce qu'on va appeler l'amitié, une forme d'amitié qui va se créer dans le couple. La philia. Je vais prendre encore un autre exemple. L'Eros, la passion. Vous avez sûrement lu ici et là des missionnaires qui allaient dans le monde à certaines époques et par amour pour les autres, pour les populations qu'ils rencontraient, ils les obligeaient à hurler qu'ils aimaient le Christ. Par amour pour eux, il est châtié pour qu'ils aiment le Christ. C'est intéressant. Ils étaient zélés, ils pensaient bien faire, c'était par amour. C'est être plus un amour passionnel qu'un amour agapé. C'est intéressant, c'est une belle réflexion. Les Grecs aussi rajoutaient, en parlant du dieu Eros, qu'ils considéraient cet amour comme une perte de contrôle. Il disait aussi que c'était une forme dangereuse, ardente et irrationnelle. C'était de l'amour qui, irrationnel, de l'amour pouvant vous faire perdre la tête et tout sens commun. Je suis guidé par ma passion. Mais j'appelle ceci de l'amour. Donc on peut dire que l'Eros est un amour plein de manque. Donc, vous êtes peut-être d'accord avec moi que c'est peut-être pas de cet amour-là dont Jésus parlait. L'amour philanthropique. On dit que l'amour philia est l'amour existant entre amis. L'amour du prochain. Qui cherche le bien commun et s'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, la camaraderie. Ouf, compliqué ce mot. Je le donne, je le reçois, je le partage. Je partage ce que je suis et je reçois ce que tu es. On est dans un échange. La philanthropie. On dit que l'amour philia est un amour qui se caractérise par l'altruisme et se base sur l'amitié. Qui se réjouit lorsque l'autre est heureux et bien. Cela n'implique ni amour passionné, ni attirance corporelle. Mais l'amour philia est dépendante de la réciprocité. Dans une relation entre amis, si je t'aime, j'aimerais que tu me le retournes aussi quand même, que je ressente ce retour-là. Et donc, il peut être influencé par le contexte, par la relation. Donc on peut dire que c'est une forme d'amour qui est quelque part fragile, parce qu'il va dépendre de ce qui va nous environner, mais de l'environnement qui va être autour de nous, de mon état d'esprit, ou de des fois où j'aurais fauté contre toi. Cet amour filial-là peut disparaître. Il est peut-être fort. Il est peut-être pérenne dans la durée. On peut être, on a ses amis d'enfance avec qui on garde des relations. Et comme l'Eros, il peut toutefois décevoir. On a tous eu des amis. Et on a tous perdu des amis. On était dans une relation filia. Je vais vous partager un petit passage. Et je me suis permis de remettre les mots qui étaient en grec en face. C'est Jésus qui retrouve Pierre, c'est sur la plage. Quand donc ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Amour agapé. M'aimes-tu plus que ceci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais, toi, que je t'aime. » Il lui dit, « Fais paître mes agneaux. » L'amour filia, une tendre affection. Puis Jésus lui dit encore une seconde fois, « Simon, m'aimes-tu ? » En amour agapé. Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais, toi, que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Puis une troisième fois, il lui redit, « Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Et là, on est dans un amour filia. Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois. « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Toi, tu sais avec certitude que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » C'est intéressant d'avoir cette lecture-là en ces termes. Créant cette différence entre les mots, entre ce que Jésus lui dit et la réponse de Pierre. Jésus lui parle de quelque chose de plus grand et Pierre parle de quelque chose d'humain. Parce qu'on disait aussi que l'amour filia, c'est l'amour du monde, c'est l'amour des choses palpables. Bon, on saura tous que Pierre deviendra un personnage important dans l'histoire du christianisme. Donc, comme je disais, on peut avoir cet amour éros, cette relation-là, amour passionnel. On doit apprendre à le faire évoluer aussi en amour filia, ce que Pierre vit. Mais on décide d'aller plus loin, de penser plus loin, de penser plus grand. On peut penser aussi un peu à ce bébé, quand il tète le sein de sa mère, il essaie de satisfaire sa satiété, il essaie de se nourrir, il a une passion pour sa mère parce qu'il veut manger. Et après qu'il ait bien mangé, il est apte à écouter d'autres choses. Il est apte à créer une autre relation. Et nous, parfois aussi, dans notre foi, dans notre relation avec les gens, même dans notre propre foi, au début, on a envie de recevoir, on a besoin de consommer, on a besoin de grandir, ce qui est tout à fait normal, tel l'enfant, tel le bébé, on va recevoir. Et après, quand on a reçu, on va commencer à prendre le temps d'écouter, de lire sa Bible, créer une relation qui va être un peu plus passionnelle. Donc le zèle où on ira dans les métros, on ira parler, prêcher, on ira faire de l'évangélisation ici et là. Mais ce sera un peu de l'évangélisation et quelque part aussi à tout va, parce qu'à aucun moment on aura établi une relation d'amis avec l'autre. Je sais pas si Gérard se souvient, parce que c'est lui qui l'avait fait. Musulman mon ami. J'établis une relation d'amitié avec l'autre. Je m'intéresse à sa vie. Je m'intéresse à ce qu'il pense. Comment je peux lui témoigner mon amour si je ne sais même pas qui il est, je ne connais pas sa propre condition. Et je vais juste lui dire, fais ci, fais ça. Petite parenthèse, la femme adultère. C'était la loi à l'époque. Elle doit se faire lapider. On aurait pu être, Jésus aurait pu venir et dire, bon, jeune demoiselle ou jeune dame, la loi c'est la loi. Il est venu au milieu des gens, il s'est accroupi. C'est d'imaginer la scène des gens debout et lui accroupi à côté de la femme, la pression que l'on voit, c'est-à-dire on est à la merci de toutes les personnes qui sont autour de nous. C'est-à-dire, si une personne jette une pierre, Jésus la recevra, cette pierre, vu la position qu'il a à cet instant. Il ne demande pas, il vient pas voir la dame en lui disant, mais t'es une adultère, t'es allé voir ailleurs, c'est pas normal. Non, il s'intéresse à elle. Et il est prêt à recevoir les coups pour elle, les jets de pierre pour elle. Donc, comme je disais, donc, comme l'enfant qui a prié, qui était bien nourri, qui est prêt à écouter, à rencontrer l'autre au-delà de sa faim, par une communication et une parole. Et quand on a sereinement parlé avec quelqu'un, qu'il y a eu cette filiala dont on parlait, de l'amitié, un échange, on peut aller au-delà. Et s'approcher d'un état de pure présence réciproque. Et là, on devient capable d'aimer gratuitement. Jésus, dans ce passage, il nous dit pas « Soyez amoureux l'un de l'autre » quand il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il ne dit pas non plus « Soyez des amis ». Jésus nous invite ou nous commande, parce que c'est un commandement à ce moment-là, d'entrer en relation avec l'autre, de façon légère, gratuitement, en respectant sa liberté, comme la vie le respecte. Quand Jésus vint mourir à la croix, je sais plus qu'il disait dans sa prière ou dans son partage, il est venu mourir pour tout le monde. Les croyants, les non-croyants, les fidèles, les infidèles, les gens justes, les gens injustes, les idolâtres, les non-idolâtres, venu mourir pour tout le monde. L'agapé, c'est l'amour qui donne au lieu de prendre. C'est l'amour qui se fait petit au lieu d'occuper toute la place. L'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien. C'est l'amour affranchi de l'ego. En préparant ce message, je suis tombé sur des articles de ce monsieur Jean-Yves Leloup, un théologien, et qui dit l'agapé accepte que l'autre ne nous aime pas. S'accepter que l'autre ne nous aime pas. C'est un autre mot pour dire liberté intérieure. C'est aimer tout comme l'émeraude est verte. J'aimais cette phrase parce qu'au début, je la comprenais pas. Qu'est-ce qu'on entendait? Aimer tout comme l'émeraude est verte. L'émeraude est verte. Elle sera verte. Aimer l'autre sans chercher à le changer. L'aimer avec ses blessures, avec ses cicatrices, avec son, ce qu'il est. Comme Jésus a fait pour nous. Nous aimer tel que nous étions, avec notre orgueil, notre fierté. Ce qui est bien dans tout ça au final, c'est Jésus ne nous laisse pas seuls. Faut être honnête qu'apprendre à aimer, c'est difficile. Être l'ami de son ennemi, c'est pas facile. On le voit juste avec nos relations entre voisins, on n'est même pas encore ennemis, on est juste voisins, mais on a une tension sur un cerisier qui déborde ma clôture. Ça dépend s'il va être sérieux, parce que ses dents de mon côté, elles sont à moi. Par contre, il va couper la branche, parce qu'il veut pas que je bénéficie de ses cerises qu'il a plantées. On n'est pas encore sur notre, sur une conflictualité en termes d'ennemis. Il sait que c'est difficile. Mais il sait que c'est possible. Ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il, ce qu'il nous recommande, tout ce qu'il nous dit, il sait que c'est difficile, mais il sait que c'est possible, il sait que ce n'est pas impossible. Qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour nous accompagner. Les fois où, après la dispute avec mon voisin qui a son problème de cerisier, il t'accompagnera pour établir une autre relation avec lui. Il suffit de demander. Au management, les nouveaux concepts de management, c'est le patron de l'ego qui essaie de le mettre un peu en avant, un peu partout. Il explique, aujourd'hui, dans l'entreprise, on blâme celui qui échoue. Et lui, ce qu'il dit dans son entreprise, il dit, je vais blâmer celui qui ne demande pas d'aide. Ça change le paradigme. Je vais blâmer celui qui ne demande pas d'aide. Dieu dit, je suis là, je te tends ma main. Tu te plains, saisis-la. Apprendre à aimer. Je pense que c'est quelque chose que l'on devrait essayer de construire dans toutes nos relations, dans la vie pratique avec les gens. Prenons-les tels qu'ils sont, apprenons à les rencontrer, apprenons à déjà les accepter tels qu'ils sont. Ils ont des parcours de vie différents des nôtres, ils ont eu des difficultés différentes des autres, mais ça ne les résume pas. Je sais plus, je discutais avec mon beau-père, lui il me disait, parfois l'évangélisation, ça serait aussi, je suis sur une plage, je suis en train de jouer avec mes frères et sœurs parce qu'on s'aime en agapé, et que l'autre nous voit nous amuser à côté, ait envie de découvrir cet agapé-là, cet amour-là. Et là, je n'ai même pas eu besoin de parler, de m'adresser à lui. Il a vu cet amour, il a vu l'échange, l'amour que j'ai à l'égard de mon frère, qui n'est pas lié au fait que ben la dernière fois il m'a pas laissé chanter ou quoi, non. C'est un amour agapé qui est plein. Et que parfois l'évangélisation, c'est juste ça, ce que l'autre voit quand il me regarde. Est-ce qu'il voit de la joie? Est-ce qu'il voit de l'amour éros, de l'amour philia ou de l'amour agapé? Qu'est-ce qu'il voit? Seigneur, je sais que c'est, tu l'as dit, difficile de pouvoir établir des relations avec l'autre, de pouvoir entrer en relation, de pouvoir rencontrer, de pouvoir nous délester de notre ego, de notre charge, de notre façon à nous de penser, Seigneur. Je t'implore de m'aider à disposer mon cœur afin que je puisse apprendre à aimer, afin que je puisse recevoir tes commandements, afin que je puisse comprendre la quintessence de cet amour-là que tu as montré à mon égard. Apprends-moi à être fidèle. Apprends-moi à comprendre le sens de tes mots, le sens de tes questions. Apprends-moi à rencontrer pleinement ton Esprit Saint que t'as envoyé pour nous, car tu nous as pas laissés seuls. Amen.